Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour, bienvenue sur Cowork la radio, bienvenue dans Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Chaque semaine, je reçois le fondateur ou les fondateurs d'une startup ou des collaborateurs, voilà, qui nous racontent leur expérience, qui nous racontent la genèse de leur projet, comment l'idée leur est venue, quelles sont les étapes, quels sont les obstacles aussi. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais deux fondateurs d'une start-up qui s'appelle Spotlag. J'ai le plaisir de recevoir donc Louis Toussaint. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes cofondateur et directeur marketing.
C'est ça, exactement.
Et Vincent Marinier, donc cofondateur.
Bonjour.
Et CEO. Bonjour. Comment allez-vous?
Super.
En pleine forme tous les deux?
Super.
Alors, bonjour. Vous êtes deux des trois fondateurs.
C'est ça, tout à fait.
Initial. Donc Spotlag, qui est une plateforme de réservation de lieux et d'animation pour vos événements hein, d'entreprise, team building, présentiel et à distance, séminaires et soirées d'entreprise. Ça, c'est dans les grandes lignes. Vous allez nous présenter déjà votre start-up.
Tout à fait. Alors, je vais peut-être commencer.
Allez-y.
Alors, Spotlag, donc du coup, l'idée de base, c'était une plateforme de réservation en B2C. Donc, c'est comme ça que l'idée nous est venue. Donc, initialement, on devait proposer des animations à faire en famille, avec des amis, à l'occasion pendant les vacances ou lors d'un week-end, peu importe. En fait, au moment qu'on a lancé cette plateforme B2C initialement, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des clients, des plus grands groupes et notamment des entreprises. Et on s'est dit qu'il serait beaucoup plus intéressant pour nous de proposer justement nos services et notre plateforme exclusivement à des entreprises.
D'accord, donc B2B.
Exactement.
Et du coup, maintenant, c'est le cas. Vous faites exclusivement du B2B.
Tout à fait.
D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Donc, la start-up est née il y a combien de temps?
Alors, la start-up, elle est née début 2018, c'est ça, Vincent?
Tout à fait.
Et elle est née tout simplement parce qu'on était amis. Et lors de vacances en Espagne, bah, on a un petit peu discuté du projet.
Donc c'est comme dans les films, en fait, autour de l'apéro en Espagne.
Morito, piscine.
Voilà. D'accord.
C'est un peu dans un cadre un peu vacances que tout ça s'est passé et que ça a débuté. Et du coup, suite à ça, on a commencé l'aventure. Comme disait Vincent, au départ exclusivement, enfin en ciblant le B2C, les particuliers. Ouais. Et ensuite, en adaptant nos offres au marché professionnel. Et on a vu aussi qu'il y avait une bonne part de marché sur l'activité MICE, donc tous les événements d'entreprise, que ce soit séminaire, team building. Et c'est un marché qui était un peu poussiéreux, entre guillemets, si je peux me permettre, même s'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont assez jeunes et des startups et des entreprises, ça bouge pas mal dans ce secteur-là aussi.
Jeunes comme vous, de 2-3 ans ou...
Il y a des startups, oui, assez récentes sur le marché. Avec le Covid aussi, ça a fait pas mal évoluer ce marché et ça l'a pas mal dépoussiéré, notamment avec le distanciel, le digital, le virtuel.
Mais parce que toutes les grosses boîtes, enfin même toutes les petites boîtes, grosses boîtes, s'y sont mises au team building en ligne. On était obligés un peu pour remotiver les salariés, non?
Alors exactement ça, on pourra peut-être en reparler dans un second temps. Mais c'est vrai que oui, c'est de toute façon, nous, ça a été une étape importante de notre développement et de notre croissance. Le Covid nous a effectivement permis de pivoter sur toutes ces offres virtuelles, distancielles, et en plus de nous développer, parce que voilà, ça nous a permis de générer de la croissance, d'aller trouver d'autres clients, de se positionner sur un néo-marché et de prendre tout de suite une part importante de ce marché.
Donc, vous étiez amis avant, avec le troisième fondateur également?
Également.
Vous étiez tous les trois donc en Espagne, mais comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas pour vous, qu'il manquait quelque chose? Comment elle est née vraiment lors de cette discussion? C'était à suite à quoi? Une expérience, une mauvaise expérience, un manque
Exactement. Pour la partie B2C, mais après on va peut-être parler parce qu'on a pivoté par la suite. Effectivement, l'idée de base pour le B2C, c'était vraiment je ne sais pas quoi faire le week-end ou pendant mes vacances. Trouver quelque chose d'original. Et c'est exactement comme ça que l'idée B2C est venue.
D'abord.
Mais il y a aussi, c'est un peu le même principe, effectivement, pour le B2B. mais qui est plutôt un autre scénario.
Vous avez vu en l'heure de veille, enfin vous vous êtes rendu compte que...
Exactement. En fait, typiquement, pour des événements, on va dire, de moyenne taille, disons autour d'une cinquantaine de participants, vous avez souvent typiquement le manager qui veut faire, fêter les chiffres, faire un petit événement sympa avec les nouveaux arrivants, etc., pour créer du lien interne à l'équipe. Et du coup, il veut organiser un petit événement interne qui est trop petit pour passer par une agence événementielle et faire un gros voyage de 2-3 jours, etc. Et il veut faire juste tout simplement une journée de team building ou une demi-journée qui va s'enchaîner sur un resto et puis en boîte de nuit quand on pouvait. Et en fait, l'idée, c'est souvent déléguer à l'assistante de direction ou à un collaborateur. Oui. Voilà, qui du coup se gratte la tête à savoir où est-ce que je peux trouver des animations sympas de team building, ils demandent des devis à droite à gauche. Et nous, en fait, Spotlag sert vraiment à ça, c'est-à-dire qu'on centralise justement toute cette offre, toutes
vous
ces animations.
Vous faites le travail à leur place.
Exactement. On est là vraiment pour simplifier la vie de l'organisateur, donc typiquement, comme je disais, le manager, son assistante ou un collaborateur, qui n'a pas que ça à faire, pardonnez-moi l'expression, et qui du coup nous sous-traite un petit peu cette recherche de nouveaux soit de lieux ou des animations. Et en plus, le service est gratuit. Donc, pourquoi s'en passer ?
Donc, ça, c'est gratuit pour les entreprises.
Oui, c'est indolore, en fait. Notre service est indolore pour l'entreprise.
D'accord. On en parlera juste après. Juste avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous étiez salarié, vous deux ?
Oui, alors moi, j'étais salarié en CDI. Donc, c'est vrai que ça a été aussi une étape importante à franchir, oui. De se lancer dans l'entrepreneuriat, dans cette start-up. Moi, j'occupais des fonctions de marketing dans le e-commerce.
D'accord.
Donc, je m'occupais de toute la partie acquisition et marketing digital d'un site de vente de pièces auto en ligne. Et c'est vrai que ça a été une décision importante, mais que je ne regrette pas, en tout cas aujourd'hui.
Pour l'instant, tout va bien.
Et je pense que c'est aussi une très bonne expérience à vivre,
bien sûr.
Que ce soit personnel et professionnel, bien sûr. Mais c'est sûr que pour l'instant, tout va bien. On est en croissance. On a des très beaux objectifs et on va dire j'espère de longues années devant nous. Donc effectivement, on est content.
Et est-ce que le fait que vous lanciez entre amis a facilité le fait de sauter le pas? Peut-être vous n'étiez pas seul, en fait, et vous vous êtes dit, on est ensemble, l'union fait la force. Est-ce que ça a joué ?
Alors, pour l'historique, au début, on était vraiment deux, au tout début, pour la partie B2C. Ouais. Donc, avec Paul, mon frère aussi. Donc,
d'accord.
C'est assez simple. On peut se dire tout ce qu'on veut de manière très franche et c'est oublié au bout de 5 minutes. Et du coup, après, Louis est arrivé vraiment 6 mois après le lancement de l'aventure. Et il nous manquait justement, pile poil à ce moment-là, un responsable marketing, parce que c'était un domaine dans lequel on n'était pas du tout au point, parce que c'est un vrai métier. Et du coup, Louis, on a pensé tout de suite à Louis. Et comme on vous l'a expliqué, ça s'est fait assez naturellement.
Et vous, Vincent, alors qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Alors moi, j'étais consultant en immobilier d'entreprise, dans un gros cabinet international. Donc j'étais déjà dans le B2B, donc j'accompagnais les entreprises à trouver leur bureau. Donc Et maintenant, j'accompagne pour plutôt la partie qui est tout aussi fun, parce que trouver des bureaux, c'est sympa. Voilà, c'est pour la partie fun de l'entreprise qui est le séminaire et le team building. La soirée.
Alors aujourd'hui, combien de collaborateurs que votre startup Spotlag ?
Alors aujourd'hui, on compte actuellement, on est 8 au total à l'heure actuelle. On est amené à se développer dans les prochains mois et à recruter davantage. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, la crise du Covid pour nous, même si on le sait, le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert de cette crise. En fin de compte, pour nous, elle a été plus un tremplin, si je puis dire ça comme ça, qu'autre chose, parce que justement, on a pu se positionner sur le marché du virtuel, qui était aussi intéressant dans le sens où il n'y avait pas de limite géographique, j'ai envie de dire, alors que sur le présentiel, effectivement, nous, on proposait exclusivement au départ nos animations sur le secteur de l'Île-de-France.
D'accord.
Avec le virtuel, on a ouvert notre champ de vision et notre zone de chalandise, si je puis dire ça comme ça.
Vous avez touché des clients plus loin, en fait.
Exactement. Alors, dans le reste de la France, bien sûr, donc au niveau national, mais aussi dans d'autres pays.
Quel pays, par exemple ?
Par exemple, on organisait des événements en virtuel, donc des escape games à distance ou des cours de cuisine pour des collaborateurs un peu dispatchés dans différents pays. Donc avec des équipes à Singapour, à Londres, à Paris. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que le virtuel, dans un sens, va va continuer parce que il y aura toujours un besoin de maintenir une bonne cohésion sur des équipes internationales qui sont réparties justement et qui sont éloignées géographiquement.
Et c'est vrai que ça, les cours de cuisine et les escape games, c'est ce dont j'ai le plus entendu parler pendant le confinement. Mmh. J'en ai fait un d'ailleurs de cours de cuisine en team building, c'était vraiment pas mal, ouais. C'est très bien.
Ouais, c'est vrai que c'est des formats qui marchent très très bien. Alors, qui marchaient déjà sur le présentiel.
Ouais.
Donc, en fin de compte, avec nos partenaires, parce que nous, on n'est pas organisateurs d'événements. Nous, ouais. On est vraiment.
Oui, vous avez des prestataires. Enfin, voilà. Il y a des prestataires, j'imagine.
Nous, on accompagne des entreprises, on les conseille. Donc, on n'est pas juste une plateforme qui met en relation. Ça, c'est important de le signaler. Mais,
donc, conseiller, c'est-à-dire une entreprise va vous appeler. Faire appel à vous donc sur Internet.
C'est ça.
Il y en a qui y arrivent, qui ne savent pas du tout quoi faire. Ben voilà, on aimerait faire un événement team building.
Pour tout vous dire, en général, le client type ne finit jamais sur l'animation sur laquelle il avait fait sa demande.
Vous avez des exemples comme ça, ils sont passés de l'escape game à...
Oui, c'est ça.
Ouais, effectivement, un client peut faire une demande sur un cours de magie ou sur une murder party et peut finir à organiser un cours de cuisine.
D'accord.
Parce que, justement, nous, notre rôle chez Spotlag, c'est de conseiller le client au mieux et de qualifier son besoin aussi avant d'aller plus loin. Donc, il y a forcément quelqu'un de chez nous, donc un gestion de projet événementiel qui va contacter le client par téléphone pour justement qualifier le besoin, le nombre de participants, le budget pour voir aussi si ça peut coller par rapport à l'animation qu'il avait initialement sélectionné. Et ensuite, il y a tout cet accompagnement qu'on met en place pour satisfaire et proposer l'animation idéale pour le client ou alors le meilleur lieu pour son séminaire. C'est vraiment ça, notre rôle, c'est vraiment de conseiller et d'accompagner le client et d'être un peu, comme disait Vincent tout à l'heure, un peu son agent événementiel intégré, si je puis dire ça comme ça, pour lui faciliter un peu le boulot, quoi.
Et aujourd'hui, alors, vous avez beaucoup de clients en moyenne, à peu près, vous savez.
Le client type, souvent, voilà, trois quarts de nos clients sont des grands groupes internationaux ou français.
D'accord.
Et puis aussi, voilà, des PME. On n'a pas énormément de start-up encore. Donc peut-être, je pense qu'ils font ça font d'autres types d'événements. Mm-hmm. Et puis la taille des groupes est en moyenne autour de 80 participants. Donc
d'accord.
C'est quand même
c'est des gros événements.
C'est des gros événements. Alors il y a beaucoup plus, bien sûr. Mais oui, c'est l'événement type en team building, en tout cas.
Et vos prestataires ?
Oui.
Alors, vous les choisissez comment?
Alors, comment effectivement, au moment, il y a tout un travail de prospection, de passage de partenariat avec ses partenaires événementiels. Et on a cet avantage que c'est souvent des gens qui ont du métier, qui ne sont pas forcément très bien positionnés sur Internet. Et nous, c'est notre travail, justement,
d'accord,
de leur apporter
plus de visibilité,
etc. Et effectivement, nous, en fonction des besoins, on qualifie certaines thématiques qui nous manqueraient ou certaines zones géographiques qui nous manqueraient en fonction des projets clients. Tout en parallèle, bien évidemment, il faut toujours améliorer son offre. Donc voilà, on a plusieurs prestataires qui proposent plusieurs thématiques. Mm-hmm. Des prestataires qui proposent une centaine d'animations. Donc en un seul partenariat, en fait, vous avez accès quand même à un large panel de thématiques qui traitent vraiment de l'escape game, au quiz, au... la chasse au trésor, tout ce que vous voulez.
Et là, comment ça se passe en ce moment? Ça a repris, du coup, les événements en présentiel, j'imagine, mais dans le respect des gestes barrières, évidemment. Comment ça se passe, du coup, l'activité?
Effectivement, depuis mi-mai, on observe une vraie reprise sur des demandes présentielles, justement un peu au détriment aussi de ce qu'on organisait à 95%, c'est-à-dire les événements à distance. Donc une vraie reprise du présentiel pour des activités team building, pour des séminaires aussi, parce que les entreprises, les équipes ne se sont pas vues pendant quand même pas mal de temps. Ils ont un vrai besoin de recréer du lien et de se revoir physiquement. Donc ça commence à bouger pas mal et ça va continuer là, jusqu'à août. On est un peu dans la période importante et en termes de business sur la partie team building en tout cas.
Et je pense que peut-être plus même que les autres années, vu que, comme vous le dites, les gens ne se sont pas vus depuis un moment, on a besoin de ce contact, de voir les gens avec qui on
exactement
travaille.
Et effectivement, nous, on oriente nos clients davantage vers des activités en extérieur, justement en plein air, pour, comme vous disiez tout à l'heure, les gestes barrières, c'est important. On a une charte anti-Covid avec nos partenaires. On a mis en place cette charte justement pour mettre en place toutes les conditions nécessaires à la reprise de l'activité. Donc effectivement, on voit qu'il y a une vraie reprise et c'est très positif pour nous et pour l'ensemble du secteur événementiel.
Et comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des événements en ligne ? Est-ce que d'ailleurs on vous demande quand même des événements en ligne ? On ne sait pas trop si le télétravail va perdurer ou pas, mais vous, comment vous sentez les choses ? Est-ce que vous pensez que ça a quand même mis dans la tête des gens qu'on peut faire des événements en ligne avec des gens qui ne travaillent pas au même endroit ?
Justement, il y a aussi un point aussi important, il y avait le Covid, effectivement, mais il y a aussi toute cette logique de démarche RSE, écologie, éco-responsabilité des entreprises. Et effectivement, maintenant, je pense qu'il y aura vraiment une mutation un petit peu de notre marché où on va peut-être moins prendre un avion pour passer 3 jours à 100 km de Paris.
Surtout que des lignes vont être supprimées.
Je grossis le trait. Parce que c'est, et donc, effectivement, peut-être faire moins d'événements présentiels et peut-être un peu plus d'événements en distanciel pour rapprocher un peu les équipes et parfois des gens qui ne se connaissent pas, comme le disait tout à l'heure Louis. On a fait des événements où, de toute façon, même Covid ou pas, il n'y aurait pas eu cet événement. C'est-à-dire quand vous réunissez une équipe de New York avec une équipe de Shanghai en passant par Paris. Déjà, il faut synchroniser les time zones. Mais en tout cas, je pense que parfois, c'est des petites équipes. C'était des petits groupes, parfois, de 15 personnes.
Ah oui, justement, les effectifs.
Il y avait parfois... il y a de tout, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, l'événement que j'ai en tête, c'était 5 équipes à New York, 5 personnes à New York, 5 personnes à Shanghai et 5 à Paris. Et effectivement, je ne pense pas que l'entreprise aurait affrété un avion juste pour petit team building à Paris. Donc l'événement, en fait, à distance, alors il n'y avait pas vraiment d'offres auparavant. Et en plus, les gens étaient peut-être un peu moins habitués à faire du Zoom ou du Teams, donc de la visioconférence.
Ça venait moins facilement,
Maintenant que les gens, peut-être, sont un peu plus décomplexés à ce niveau-là, plus avec une offre hyper sympa, notamment les escape games sont vraiment nos animateurs ont vraiment bien travaillé dessus.
On fait des trucs... moi, je suis une grande fan d'escape games. J'en ai fait plein en présentiel. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu d'appréhension. Même, ils font des jeux de société, etc. Et en fait, c'est super bien fait. C'est vraiment... c'est génial, on s'y prend vraiment.
C'est assez immersif. Il y a des escape games, il y a aussi même ce qu'on appelle des murder parties ou Cluedo parties. Ouais. Vous menez l'enquête, vous interrogez même des comédiens à distance, etc.
Génial.
Et c'est vrai que les participants se prennent au jeu sans problème.
Puis ça permet de décompresser après une bonne journée de travail. Vous disiez qu'il n'y avait aucun coût pour l'entreprise. Du coup, comment ça se passe, en fait ? Comment vous gagnez de l'argent ? C'est des prestataires ? Il y a
un tarif agence
aux partenaires.
Ou une rétro-commission, effectivement. Donc, en fait, on a des tarifs préférentiels, dus au volume, notamment, et par les pratiques de ce métier, depuis des années. Donc, du coup, nous, on propose le même prix qu'en direct. Donc, c'est-à-dire, si une entreprise passait en direct avec notre prestataire, il aurait le même tarif que ce qu'on va lui proposer.
D'accord. Ok. On parle donc là de votre start-up, de ce que vous faites. Est-ce que depuis la création, vous avez rencontré des obstacles ? Parce qu'on le sait, devenir entrepreneur, ce n'est pas toujours une mince affaire. On rencontre des obstacles, c'est même normal. Quels ont été pour vous, alors peut-être que ce n'est pas les mêmes pour vous, Vincent, que pour vous, Louis, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés, que vous avez surmontés ?
Alors... Outre l'obstacle Covid, j'ai envie de dire, parce que même si ça a été plutôt bénéfique pour nous, comme je disais tout à l'heure, au départ, ça a été un vrai frein.
Ça a été un coup, j'imagine. Vous avez pris un coup.
Tout le monde
comme
a pris un coup.
Oui, comme tout le monde.
Mais ça a
Qu'est-ce
été
qui
un,
se passe ?
Ça a été un vrai coup dur. Et pendant... en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ou 3 semaines, avant de lancer cette offre avec nos partenaires à distance, on était un peu à l'arrêt comme beaucoup d'activités. La start-up et ce mode de fonctionnement, sans niveau hiérarchique énorme, a permis de pivoter très rapidement. Donc ça a été une vraie force aussi. Ça nous a permis de lancer ces offres. On a été les premiers à lancer des événements virtuels, en tout cas sur le marché français. Donc on a aussi pris une longueur d'avance par rapport à ça. Mais après, à titre personnel, en termes de difficultés, bien sûr, quand on lance une start-up, il y a le côté financier qui est très important. Et moi j'ai pu effectivement faire une rupture avec mon ancien employeur. Oui. Donc ça a été aussi un bon coup de pouce. Mais je pense qu'il y a beaucoup peut-être d'entrepreneurs qui ne se lancent pas à cause de cet obstacle financier qui est aujourd'hui, bien sûr, il faut prendre aussi la réalité des choses. Et nous, on, avec Vincent, effectivement, on a chacun des enfants, donc on sait que voilà, derrière, il faut.
Ouais. Ah oui, non, mais c'est des choses auxquelles il faut,
voilà, c'est faut ça. Penser. Et c'est plus cette difficulté-là, donc l'appréhension de se lancer sans forcément de visibilité et sans de sécurité derrière. En tout cas, pas sur le long terme, sur le court terme, hein, dans un sens un petit peu, oui, mais pas sur le long terme. C'est plus cette difficulté-là qui est importante à passer. Mais c'est aussi une source de motivation. Et c'est pour ça qu'on se donne à fond aussi tous les jours pour être au top et continuer à générer de la croissance.
Et du coup, là, vous parliez d'une rupture conventionnelle. Est-ce que vous étiez fixé un délai, en fait, une deadline? Si jamais ça ne marche pas dans tant de mois, je reprends une activité en tant que salarié. Est-ce que vous aviez un plan B ou pas?
Il n'y avait pas de plan B, on va dire, concret. Mais oui, de toute façon, on s'était dit avec Vincent et Paul que si jamais ça ne marchait pas, de toute façon, effectivement, la vie, le retour à une situation salariée ou autre d'ailleurs, hein, mais de toute façon, il aurait fallu prendre des décisions. Mais on ne s'était pas vraiment mis de gros délais, si ce n'est la période, on va dire, si on s'était dit peut-être un an, je crois, au départ. On s'était dit, voilà, dans un an, on fait un petit point.
Qui a été repoussé à cause du Covid.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est bien de mettre effectivement de faire des points réguliers pour voir où on en est au niveau de justement de la croissance du business et voir si on va dans le bon sens et si on continue.
Des points réguliers, donc la communication est très importante.
Bien sûr.
Entre vous. Vincent, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que, pareil, vous avez pu faire une rupture conventionnelle, assurer un peu vos arrières avec un filet de sécurité?
Oui, tout à fait. C'est à peu près le même cheminement que Louis. Mais j'avais ce projet
depuis longtemps.
Tout à fait transparent. Dès que j'ai mis mon premier boulot, entre guillemets, dans mon ancienne vie, entre guillemets, de salarié, j'avais déjà cette envie de créer une entreprise.
Pourquoi? C'est
à la fois l'indépendance, soit financière, gérer sa vie comme on veut, et aussi de pouvoir, sincèrement, dans le monde de l'entreprise, c'est avoir une idée et la mettre en œuvre et voir que ça marche, c'est déjà une
donc
récompense ultime. Ouais, c'est ça, exactement. Et être aussi, de toute façon, on est obligé d'être autodidacte, donc ça permet d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas, les jours après jour, et du coup d'avoir cette indépendance d'esprit aussi. Dès qu'on a une idée, on en discute, on teste, ça marche, ça ne marche pas, et puis on enchaîne sans avoir de rendre des comptes, entre guillemets, à qui que ce soit. Donc c'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est être couteau suisse un peu surtout, et puis aussi voir son entreprise grossir. Et c'est vrai qu'au début, on était deux avec mon frère dans mon salon, après il y a eu Louis, puis après on a recruté, on est huit, l'objectif c'est...
Votre bébé, en fait.
Exactement, c'est ça.
Et vous voyez grandir. Et là, justement, vous parliez du côté rébarbatif, c'est ce qui vous pesait dans votre travail, votre ancien travail, c'était un peu toujours pareil, pas assez de polyvalence.
Oui, après, j'avais quand même, dans mon ancien métier, effectivement, j'avais des clients, les journées quand même étaient assez actives, donc c'était pas tout à fait ça, mais c'est aussi le côté, grand groupe, franchement.
Ça vous plaît pas, ça?
Pas du tout.
Pourquoi? Après, c'est vrai, comme vous le disiez, quand on a une start-up, quand on est plus petit, on est plus agile, on peut rebondir plus facilement. Là, c'est ce qui leur sort, hein. Les start-up, beaucoup ont très bien rebondi au confinement parce qu'ils étaient peu nombreux, ça va plus vite, ils sont plus agiles, la communication va plus vite, donc on peut rebondir. Et vous, c'est ce qui vous plaisait aussi.
C'est ça, c'est vraiment, j'ai une idée, on en discute, ça va très vite, et puis on la met en place, et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est vrai que dans les grands groupes, il y a l'idée, il faut en parler, il faut réussir à convaincre, c'est un peu politique, et puis ça met un peu de temps. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des grands groupes aussi qui adoptent justement ce système un peu start-up, et qui prennent parfois d'ailleurs des bureaux dans des centres de coworking pour justement faire des tests, un peu des labs, pour tester des laboratoires d'idées, pour tester certaines nouvelles idées, certaines nouvelles approches, pour justement peut-être dynamiser un petit peu le grand groupe, la machine qui va derrière.
Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment depuis le début? Des choses où tout...
Aller plus vite.
Aller plus vite.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'était pour le coup le manque d'expérience dans l'entrepreneuriat, effectivement. Je pense que Spotlag, on a mis 2 ans pour en arriver là, à peu près.
Parce que vous avez... Pourquoi? Parce que vous avez hésité?
Six mois, Non, parce que déjà, on était parti au début sur du B2C, oui. On a un petit fauté, etc. Et puis aussi, on acquiert des compétences, mine de rien.
Mais après, vous n'êtes pas fier, justement, de cette évolution
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Non, mais si on devait revenir en arrière, mais évidemment, ça irait plus vite.
Tout
non,
d'un coup,
c'est pas un regret. Non, c'est
B2B,
pas, c'est pas du tout un regret, hein, parce que voilà. Mais effectivement, si on devait recommencer ou remonter une nouvelle boîte, bien évidemment, ça irait 10 fois plus vite.
Ouais. Après, il y a le côté aussi financier de la société qui est important et qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de, pour le moment, de levée de fonds. On n'a pas, mm-hmm. on a pas pitché pour, dans ce sens-là. Donc, on fonctionne uniquement avec de l'autofinancement. Donc, effectivement, c'est une bonne chose parce qu'on maîtrise totalement nos finances. Mais c'est aussi... c'est-à-dire que notre croissance est proportionnelle
plus lente,
est plus lente, voilà, et proportionnelle aussi à notre financement et à nos finances. Donc c'est sûr que notre développement s'est fait aussi avec les clients qu'on a pu avoir au fur et à mesure et avec notre croissance interne.
Et la levée de fonds, vous y avez pensé? C'est une question qui s'est posée entre vous.
La levée de fonds, ça permet effectivement de faire le gap supérieur. Donc, bien évidemment, on y songe. Après, jusqu'ici, effectivement, on attend déjà que l'orage passe.
Ouais.
Et puis faire deux belles années avec, en montrant une croissance dans cette dynamique-là, normalement, oui, 2022
ou 2023.
Vous avez
déjà été contacté ou pas? Des gens sont intéressés?
Là, je pense que tout, c'est... En tout cas, l'événementiel fait un peu peur, je pense, en ce moment, même si nous, on a une approche vraiment digitale et start-up.
Oui.
Et
le digital ne fait pas peur en ce moment.
Oui, c'est ça.
C'est un peu l'avenir sur lequel on mise.
Et effectivement, ça sera un argument de plus, le fait qu'on ait résisté à la crise, une crise quand même assez importante, va montrer que l'événementiel quand même a de beaux jours devant lui.
On y croit. Quel conseil vous donneriez à des futurs start-upers, des gens qui hésitent à se lancer, qui ne savent pas trop, qui ont peut-être une idée, mais qui ne savent pas si c'est la bonne?
Moi, je dirais bien, effectivement, y songer, y réfléchir, prendre le temps quand même de la réflexion, c'est important. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'était important pour moi de le faire parce que ça a des conséquences après, derrière, importantes sur la vie de tous les jours, même si ces conséquences sont positives pour la plupart.
Encore plus quand on a des enfants, j'imagine.
Voilà, et donc, je dirais ça, bien y songer et puis bien s'entourer, choisir les bons associés, c'est quand même
c'est
le
ça,
conseil
même.
Numéro un.
Et comment on le sait alors qu'on a le bon associé?
C'est le feeling, après. Nous, on ne se connaissait pas professionnellement avec Vincent, mais moi, je l'ai bien senti. Et puis, on était vraiment complémentaires en termes de compétences et d'expérience. Donc, c'est ça qui a fait que ça m'a rassuré aussi dans ce choix-là.
Et comment ça se passe quand on est des amis, qu'on travaille ensemble alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble? Ça peut faire peur aussi. Est-ce qu'il y a des moments un peu plus compliqués?
Alors, bien sûr, ça peut faire peur parce que les relations professionnelles ne sont pas les mêmes que les relations amicales ou personnelles. Après, pour être complètement honnête, avec Vincent, on n'était pas les meilleurs amis non plus. On se connaissait depuis quelques années par nos compagnes, en fait, qui ont travaillé ensemble. Mais sinon, c'était... ça a permis aussi de sauter le pas. Et après, c'est sûr que c'est différent. Mais en tout cas, on a conservé des relations amicales.
Oui, c'est comme dans un couple, en fait.
Bien sûr.
Il faut discuter et pas attendre que les choses s'enveniment.
C'est ça.
Mais jusqu'ici, ça a toujours été très, très cordial. Il n'y a pas eu de problème. Et globalement, en plus, tant que l'entreprise avance dans le bon sens, il
n'y
a pas de raison. Il ne faut pas non plus... Voilà, faut pas parasiter avec des problèmes stratégiques, des problèmes... Faut foncer pour générer de la croissance. Enfin, en tout cas, les premières années d'une start-up, il faut vraiment penser croissance et se développer, mais aussi faire des bons choix. Et si on fait un mauvais choix, il faut s'en rendre compte quand même assez, assez rapidement pour pivoter vers une autre direction.
Et vous parliez de vos compagnes, le soutien de la famille, c'est quelque chose sur lequel vous êtes appuyé aussi pour passer, j'imagine, vous avez quand même demandé à vos compagnes, peut-être à vos proches ou aux parents, si c'était une bonne idée. Est-ce que ça compte aussi? Est-ce que vous conseillez de demander le soutien de ses proches?
Après, tout dépend. Chaque cas est personnel et différent, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est sûr qu'avoir le soutien de ses proches, comme toute décision dans la vie, ça aide et ça permet de sauter le pas. Ça, c'est sûr. C'est sûr.
Ouais.
Moi, j'ai eu le soutien de mes proches, ma famille, ma compagne. Donc, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi permis de, d'avancer et de sauter le pas.
Et vous, Vincent, avec votre frère, du coup, vous étiez dans, dans le même...
Oui, c'était assez simple, effectivement.
Et lui, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il était aussi...
Lui, c'est simple, il n'a pas du tout connu le monde de l'entreprise au CDI. Et du coup, lui, il était tout simplement diplômé d'école de commerce. Il a fait son stage de fin d'études. Et puis voilà, c'était pile poil le moment où les planètes se sont alignées pour nous tous. Et on s'est lancé vraiment à ce moment-là.
Et c'est vrai que parfois, c'est une histoire de timing. Hein. Une histoire un peu, on peut le dire, de destin. Ça se fait bien. Les choses se font bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Objectif Startup sur Cowork La Radio. Donc, je rappelle, vous êtes cofondateur de Spotlag, une plateforme de réservation de lieux et d'animation pour vos événements d'entreprise. Merci, monsieur, et puis à très vite pour un prochain épisode, la semaine prochaine, d'Objectif Startup.
Objectif Startup. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.